Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croustillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce carnet de région qui entame sa 6e saison. Un grand merci à toutes les radios associatives de la région, sans qui ce programme n'aurait jamais pu voir le jour et se pérenniser ainsi. En ce mois de septembre, c'est RCF Pays d'Aude qui en assure la rédaction en chef. Dans les titres cette semaine, la rentrée et les rythmes scolaires, leur mise en place varie d'un endroit à l'autre, exemple dans l'Aude. L'exemple aussi d'un lycée en pleine mutation à Lodève dans l'Hérault, le lycée Joseph Vallot. L'enseignement agricole occupe lui aussi une bonne place dans la région, les effectifs augmentent et le secteur embauche, nous irons en Lozère. Les opposants au gaz de schiste, eux aussi, ont fait leur rentrée dans le Gard avec une réunion en préfecture. Des travaux très attendus sur l'autoroute A75 à hauteur de Pézenas en matière de prévention des inondations notamment. Enfin, un chantier éducatif de jeunes qui s'est tenu quelques jours avant la rentrée à Alès, une démarche courageuse mais qui fonctionne. Les vacances sont finies, c'est la rentrée, une rentrée un peu différente des autres en primaire, puisque la réforme des rythmes scolaires fait elle aussi son baptême du feu. Et chacun l'intègre différemment, selon les moyens et la réalité du terrain. Illustration dans l'Aude avec deux exemples, tout d'abord à Narbonne, où je vous propose d'entendre Antoine Nestor, directeur adjoint de la MJC, qui nous explique comment sa structure a été intégrée au nouveau dispositif d'animation avec d'autres associations de la ville.
Mais l'idée, c'est que dès la rentrée de septembre, les enfants termineront l'école aux alentours de 15h30. De 15h30 à 16h, il y aura un goûter fruitier qui est organisé par la ville de Narbonne, auquel elle tient et qu'elle va continuer à développer. Et de 16h à 17h, 17h30, ben après, ça va être à nous de proposer des activités sur des cycles de 7 séances. C'est-à-dire que ces cycles de 7 séances correspondent à des périodes entre chaque vacances scolaires. Nous avons interrogé nos activités. Une dizaine d'activités ont pu répondre favorablement. Et ce qui veut dire que donc l'animateur ou l'animatrice va être amené à intervenir dans une ou des écoles pour proposer des initiations sous forme de cycle.
Du côté de Carcassonne, un timing différent pour l'application de cette nouvelle réforme des rythmes scolaires. Il faut trouver le tempo et le temps de se mettre tous d'accord. Laurie Saint-Martin, adjointe à l'éducation.
Au niveau des rythmes scolaires, nous y avons travaillé en fin d'année scolaire, nous avons créé un comité de pilotage et nous allons, la rentrée passée dès la semaine prochaine, commencer nos premières réunions et travailler activement avec les membres donc, de cette commission. C'est quelque chose de nouveau, les rythmes scolaires ont une très grande importance, c'est pour ça qu'on a voulu s'accorder le temps, le travail nécessaire pour qu'on puisse agir au mieux et toujours, je répéterai, dans l'intérêt des élèves. Ce qui compte, c'est l'enfant.
À présent, en direction Lodève, dans l'Hérault. Dans la semaine, cette ville d'au moins de 80 000 habitants a vu débarquer 1100 élèves dans un lycée Joseph Vallot en pleine mutation. Depuis 2 ans, la région Languedoc-Roussillon mène un gros chantier de rénovation pour réunir sur un seul et même site l'enseignement général et technique. Et ce n'est pas du luxe, puisqu'avec l'ouverture de nouvelles filières, le lycée a vu ses effectifs doubler en quelques années. De quoi ravir Madame le proviseur Isabelle Mercier au micro d'Alain Mendez de Radio.
On a beaucoup évolué puisque jusqu'à présent nous accueillions élèves et professeurs sur 2 sites distincts et aujourd'hui tous les enseignants sont réunis sur le même site et demain et mercredi nous accueillerons les élèves tous sur le même site. Donc ça va effectivement favoriser le travail des équipes et puis en matière de gestion des élèves ce sera aussi beaucoup plus simple que tout le monde soit présent sur un même site même si les travaux ne sont pas complètement terminé, il reste la 3e tranche. Je suis vraiment très très satisfaite de la façon dont ont évolué les choses pendant l'été et donc je suis un proviseur content.
Voilà, avec justement un petit mot sur ce qu'il reste à faire. Donc c'est le CDI, c'est la nouvelle cafétéria, en gros c'est ça. Il y a encore tout ça à finir dans la cour.
Voilà, il restera juste la tranche 3, c'est-à-dire la construction d'une cafétéria et au-dessus de cette cafétéria, le centre de documentation et d'information, parce qu'on a pour l'instant de tout petits locaux à ce niveau-là. Et une fois qu'on aura fini ces travaux au courant du premier trimestre 2014, le lycée Valour a terminé sa mue et sera vraiment dans sa configuration définitive. On va commencer, si on peut, à arborer la nouvelle cour en novembre. Et fin mars, on aura pu récupérer également la zone chantier pour accueillir les élèves sur cet espace-là.
Les élèves qui seront au nombre de quasiment 1100, donc on a la capacité du lycée, de l'établissement qui est atteinte dès cette rentrée.
Voilà, on a une capacité pratiquement atteinte parce qu'on ne sera pas à 1100, on va osciller entre 1074 et puis il faut qu'on fasse d'abord le pointage des élèves, donc ça sera mardi et mercredi. On a des effectifs prévisionnels sur les inscriptions qu'on a faites ou qu'on devrait faire, et puis on a après début octobre un pointage définitif des effectifs à la marge, on va dire on sera entre 1060 et 1080 élèves,
voilà, qui se répartissent entre l'enseignement professionnel et puis l'enseignement général.
Voilà, nous allons accueillir à peu près 700 élèves au lycée général et 360 au lycée professionnel.
Par exemple, pour l'enseignement général, on parlait de 8 classes de seconde cette année.
Oui, nous ouvrons l'établissement cette année avec une classe de seconde supplémentaire par rapport à l'année dernière. Donc c'est plutôt un signe de bonne santé, hein, que des élèves soient et demandés à venir au lycée Valour. Alors bon, il y a l'affectation en fonction du secteur de recrutement. Ça révèle aussi que le secteur accueille des familles et donc augmente sa population, ce qui est aussi un signe de vitalité sur le territoire Lodévois. Et puis ensuite, on a des filières spécifiques qui ont été demandées. Donc c'est plutôt aussi un signe de satisfaction à ce niveau-là.
Voilà, juste un mot sur les filières. On retrouve les mêmes ou il y a de la nouveauté ou du changement là aussi pour la rentrée ?
Non, pas de nouveauté en ce qui concerne les filières. On garde nos spécificités sur les arts appliqués, les soins à la personne. On a une filière électrotechnique, du sciences et technologies industrielles, du STMG, des filières générales, du tertiaire et de l'industriel.
Voilà. Un mot aussi sur le personnel. Combien de personnel ?
Alors j'ai accueilli ce matin 102 professeurs, donc 60 sur le lycée général et 40 sur le lycée professionnel, auxquels s'ajoutent bien évidemment les personnels administratifs, mes proches collaborateurs, 14 assistants d'éducation, donc là on a recruté tout ce qu'il nous fallait recruter, et puis ensuite 24 personnels d'accueil et de cuisine et d'entretien, donc une belle communauté scolaire. On devrait arriver à 150 à peu près, oui, bien sûr. Ouais.
Voilà. Et puis peut-être le plus important, ce sont les résultats scolaires. Ils sont bons, ils sont très bons à l'ODEV, dans un lycée qui est désormais très moderne et qui a passé la barre des 1000 élèves. C'est quelque chose qui doit forcément vous ravir aussi, peut-être même en premier lieu.
Alors oui, la satisfaction, elle a été au mois de juillet, hein, quand les résultats aux examens et notamment au baccalauréat, au diplôme national du brevet et au BTS ont été connus, parce qu'une fois de plus, le lycée a confirmé qu'il était capable de faire réussir ses élèves et de les faire réussir très très bien. Nous avons eu d'excellents résultats, de mémoire 92,2% de réussite, tout en ayant aussi quand même présenté 24 candidats de plus sur le niveau terminal. Donc c'est une satisfaction de voir que en ayant augmenté la capacité des élèves présentés au bac, on garde les mêmes résultats qui sont toujours aussi bons.
Donc tout se présente bien. Ce sera votre première rentrée ici puisque vous étiez arrivé en cours d'année dernière.
Oui, j'ai fait une rentrée d'hiver, maintenant je fais ma rentrée de printemps ou d'été plutôt. Mais c'est avec un grand plaisir que je suis rentré cette année.
Carnet de région, l'actualité en langue de Croussillon.
Cette semaine, Grégory Mathieu, directeur régional de l'alimentation et de la forêt, autorité académique pour l'enseignement agricole dans la région, était en Lozère, au LECTA de Sivergolles, à l'occasion de la rentrée 2013 de l'enseignement agricole. En Languedoc-Roussillon, 7806 élèves sont répartis dans 34 établissements. Des étudiants plus nombreux que l'an dernier, avec une augmentation de 4,4%. Et fait marquant, en ces temps de crise, 85% de ces étudiants arrivent à s'insérer dans la vie professionnelle dans les 2 ans. Un enseignement tourné vers des métiers qu'il faut continuer à soutenir. Pour Grégory Mathieu, il s'est confié au micro de Ludovic Terol de 48 FM.
C'est un enseignement qui est tourné vers des métiers, c'est un enseignement qui est tourné vers des projets de vie Et effectivement, finalement, les jeunes qui sont accompagnés avec des équipes de qualité, hein, près de 2000 enseignants, avec un vrai projet pédagogique, finalement, ils construisent leur projet de vie et souvent sur des métiers qui recrutent. Un excellent taux d'insertion professionnelle à 2 ans, effectivement, plus de 85%. Je crois que dans le contexte actuel, ça mérite d'être souligné. Ce qu'on a voulu rappeler, c'est qu'il faut donner envie de ces métiers. Pendant trop longtemps, on a finalement, en mettant en avant des crises, en mettant en avant des incertitudes, fait fuir les jeunes des métiers de l'agriculture, fait fuir les jeunes des territoires ruraux. Or, nous, notre conviction au ministère de l'Agriculture, c'est qu'au contraire, ce sont des métiers d'avenir. Voilà. Et que comme toute profession, il y a des difficultés, il y a des gens qui réussissent, des gens qui sont plus en difficulté, qu'on accompagnera. Mais c'est, le message général, ça doit être donner envie de ces métiers pour que les jeunes viennent et quand ils viennent, finalement, ils arrivent à réussir.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Un rapport très attendu dans le Gard en cette rentrée, qui est celui concernant le gaz de schiste. Un rapport commandité par l'ancienne ministre de l'écologie de l'époque, Delphine Batteau, concernant le permis dit du bassin d'Alès, détenu par le géant pétrolier américain Mouvoil. Le 30 août dernier, le préfet a convoqué à Nîmes les maires, les députés et les collectifs anti-gaz de schiste concernés par ce permis. Le rapporteur M. Derouin ainsi que les représentants de la société Mouvoil. Joël Jolivet, maire de Tarot, une commune incluse dans le permis du bassin d'Alès, était présent à la réunion. Il explique à Rémi Goujon de Radio Escapade ce qui s'y est dit.
L'expert a remis son rapport qui est bien entendu favorable à cette exploitation. On n'a pas été d'accord. Le problème, c'est que sur l'analyse de l'expert, il s'est basé uniquement sur les rapports de demande de permis de la société Mouvoil, et il n'a pas tenu compte des rapports qu'on avait faits, parce qu'au sein des collectifs, nous avons une commission scientifique qui est composée de géologues, d'hydrogéologues, de géologues pétroliers, de sédimentologues, de spécialistes de forage pétrolier, donc des gens qui connaissent leur boulot. Mmh. Et le gros achoppement avec le rapport de l'expert, M. Derouin, c'est que nous, c'est bien, d'après la définition des instituts français du pétrole, entre autres, on est bien dans du non-conventionnel. Alors, on peut parler de fracturation hydraulique, parce que c'est le moyen le plus radical pour accéder à ces huiles. Donc, nous avions bien mentionné, nous, les bordures de ce bassin sont très sensibles, très vulnérables aux pollutions, entre autres, des eaux souterraines. En plus, nous sommes dans une zone, ce qu'on appelle une ZRE, une zone de répartition des eaux, qui sont des zones sensibles, soit par le manque d'eau extrême, ou des aléas climatiques très forts. Les mots du préfet, ça a été de constater la vie des uns et la vie des autres, bien entendu. Il va remonter à la fois l'expertise de M. Derouin, qu'il avait mandaté, et notre expertise à nous, donc au nouveau ministre de l'écologie, M. Martin. On ne nous a pas donné de date, et nous ne pouvons faire aucune supposition sur la date à laquelle il rendra son résultat. Nous, en tant qu'élus, maires, et pour les collectifs, bien entendu, nous sommes sûrs que nous sommes donc dans un permis qui est non conventionnel. Donc la lutte, si vous voulez, est toujours permanente et il y a toujours une veille qui s'instaure. Et ça dure depuis début 2011. Pour les collectifs et pour les maires, on est toujours vigilants. Pour nous, l'alerte est toujours d'actualité.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Des travaux de mise aux normes autoroutières attendus de longue date sur l'A75 dans l'Hérault au niveau de Pézenas ont débuté lundi dernier. C'est le chantier du dernier maillon manquant de cette autoroute entre Béziers et Clermont-Ferrand. Le but est de refaire la chaussée, de réaménager les échangeurs, mais aussi d'améliorer le cadre de vie des Picénois avec une protection acoustique et une meilleure gestion de l'hydraulique pour éviter les inondations. Serge Cuculière de la DREAL du Languedoc-Roussillon, en charge de ces travaux, au micro d'Adrien Del Grange de Radio Pays des Roues.
Le gros du travail va consister à bien sûr reterrasser le remblai au niveau de la construction des 5 ouvrages d'art, et ceci va nécessiter de travailler par demi-chaussée, c'est-à-dire que le trafic va être basculé alternativement d'un côté à l'autre de l'autoroute, justement en fonction du phasage de construction des ouvrages d'art, dont le procès de construction retenu a été de réaliser des ouvrages d'art préfabriqués, ce qui permet bien sûr de gagner du temps et de réaliser quand même ces chantiers relativement importants dans un temps réduit, et de faire les deux côtés de l'autoroute, donc de construire les deux demi-ouvrages d'art en une période allant de septembre 2013 à mai 2014.
Quelques jours avant la rentrée des classes, 4 jeunes sans emploi issus des quartiers sensibles d'Alès ont réalisé des travaux d'entretien dans les écoles élémentaires et maternelles Paul Langevin du quartier des Cévennes dans le cadre d'un chantier éducatif. Un chantier qui consiste à la réalisation de services par un groupe de jeunes de 16 à 25 ans. Il s'inscrit dans une démarche de prévention et de médiation. Une réponse pertinente face au taux actuel de chômage très élevé chez les jeunes. Encadré par Avenir Jeunesse, une association de services de prévention spécialisée, les jeunes ont réalisé dans les deux écoles des travaux confiés par la ville d'Alès. Arnaud Gonzalez, éducateur, a encadré le chantier. Il nous explique le travail réalisé.
En fait, on a travaillé sur les 3 écoles donc, des quartiers sur lesquels on intervient, c'est-à-dire sur 2 écoles donc, des Cévennes et une école auprès Saint-Jean. Il y a eu beaucoup de travail d'espace vert, un petit peu de travail de rénovation de bancs, etc. Et du travail de peinture sur un portail. Voilà, donc ça c'était les travaux qui ont été réalisés par 4 jeunes donc, issus des quartiers, donc Cévennes et Pré-Saint-Jean, sur une semaine. C'est la deuxième année qu'on travaille avec la mairie, et donc c'est la mairie qui nous permet de travailler dans ces écoles. Les jeunes sont rémunérés sur la base du SMIC, ils ont un contrat de travail. C'est nous qui les encadrons sur le chantier, donc c'est nous qui gérons les tâches à effectuer, c'est nous qui leur signons leur poste de travail, tout ça. Parce que c'est des jeunes généralement qu'on connaît, et donc c'est des jeunes qui sont inscrits à la mission locale ou qu'on réinscrit à la mission locale. On essaye en fait que le chantier serve donc eux à mieux nous connaître et nous à mieux les connaître. On essaye donc de les remettre un petit peu, parce que les heures des chantiers, voilà, c'est des heures de travail. S'ils sont en retard, ben forcément c'est pas payé. S'ils sont pas là, forcément il y a un certificat médical qui est demandé. Donc c'est vraiment de les réinscrire dans un processus de recherche d'emploi ou d'emploi.
Jacques Foulquier, adjoint à l'éducation de la ville d'Alès, rappelle le partenariat qui lie la municipalité et l'association Avenir Jeunesse.
Depuis quelques années déjà, et dans plusieurs écoles du quartier des Pré-Saint-Jean et du quartier des Cévennes, Avenir Jeunesse organise des sessions de travail pour les jeunes de ces quartiers en direction des écoles, en partenariat d'ailleurs avec la mission locale, dont je suis président, et la ville d'Alès, les services d'éducation de la ville d'Alès. Alors, vous voyez, ce sont des petits chantiers qui durent une semaine, qui sont surtout des chantiers de nettoyage, de peinture, et pour lesquels les jeunes recrutés sont rémunérés. C'est intéressant pour la ville, c'est intéressant pour les enfants des écoles, et c'est intéressant pour ces jeunes-là qui découvrent le travail et le salaire, ce qu'ils n'avaient jamais connu avant. Voilà, donc c'est une première marche excellente pour leur avenir, on l'espère surtout.
Et puis ils s'engagent sur leur propre quartier et peut-être leur ancienne école.
Voilà, là nous avons dans cette équipe-là, nous avons 2 jeunes qui ont été scolarisés à l'école Paul Langevin. Et la plupart de ces jeunes sont issus soit du quartier des Cévennes, soit du quartier des Pré-Saint-Jean. Le chômage des jeunes est très important, tout le monde le sait. Il touche aussi et plus particulièrement les jeunes de nos quartiers. Il est bien évident que tout le monde est un peu sanctionné par cette crise, et particulièrement les jeunes des quartiers. C'est certain, d'où tous ces efforts qui sont faits en direction avec les emplois aidés, dont ils sont les premiers bénéficiaires.
Michael, l'un des jeunes qui ont travaillé cet été dans les écoles des Cévennes, témoigne du plaisir qu'il a eu à effectuer ses travaux.
On a travaillé en équipe, dans une bonne ambiance, et on a fait du bon boulot, c'était bien. Ça nous a donné le goût du travail. On a débroussaillé, on a poncé, on a fait plein de trucs.
Ça vous a donné une idée de travail, par exemple, dans l'agriculture ou la jardinerie?
J'aimerais bien faire ça, espace vert, parce que c'est assez agréable. Hein. Ouais, j'ai assez aimé. Ouais.
Et pourtant, Catherine Trochesec, directrice de l'école élémentaire Paul Langevin, était au départ un peu réticente sur cette opération.
En fait, je ne les connaissais pas, ces jeunes. Et là, quand je les ai vus cet été, je me suis rendu compte de l'impact aussi de l'investissement d'enfants qui étaient dans l'école, qui ont des neveux, des nièces. Et je me dis que, bon, quelque part, ça va, on va procéder là aussi à quelque chose de surveiller, de ne pas dégrader, parce qu'il va y avoir une espèce de mission de transmission, de protection, de surveillance. Quelque part, bon, c'est très très important que ce soit eux. C'est quand même une mission pour moi qui est très importante d'être réalisée par des anciens élèves de l'école.
Un reportage de Cathy Rouvérol de Radio Grille Ouverte.
Carnet de région.
Gard,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en langue de Croussillon.
C'était votre premier carnet de région de cette saison 2013-2014, réalisé par les radios associatives non commerciales. Merci à toutes celles qui ont participé, mais aussi celles qui diffusent également ce programme. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure.